Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église Grâce et Vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par le Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Soir avec vous pour une troisième fois. Les deux premiers enseignements dans le, vous êtes dans la série sur la santé émotionnelle et moi j'avais eu Jean-Sébastien m'avait donné là, le sujet de perte et deuil, un sujet que j'avais bien à cœur, qui m'était très personnel et je vais conclure, terminer mon troisième enseignement en amenant un peu une aperçu global là de mes croyances, puis de ce que je vois dans la parole, puis un peu tiré de l'expérience de la vie chrétienne de 30 quelques années, pour bien situer c'est quoi la santé émotionnelle. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle un petit peu de maturité spirituelle. Un verset que vous devez connaître, là, peut-être pas par cœur, mais vous souvenir, Éphésiens 4, 12 et 13. Vous pouvez tourner dans vos Bibles ou encore je vais vous le lire. Ça dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs. Il a donné différents dons dans l'Église. Et Dieu n'a pas donné ces hommes-là pour qu'ils fassent l'œuvre de Dieu pour le reste de l'Église. Hein? Il les a donnés pour... Verset 12, 4, 12, « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, merci beaucoup, et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. » Et là, ça parle à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand on pense à maturité chrétienne, qui est un thème important, c'est un but de toute notre vie, la maturité. Perfectionnement des saints, perfectionnement, c'est vraiment d'arriver à son plein développement. La même chose à l'état d'homme fait, c'est le mot, c'est téléos, c'est le quand tu as le plein développement d'un organisme vivant, d'un animal, peu importe, tu dis là, il est mature, il ne peut pas être plus meilleur que ça, il est à son mieux. Et une belle image, c'est à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça vers quoi on vise. Quand on dit que quelqu'un est mature, on aurait toute notre définition personnelle. Hein? Si je vous posais la question, vous me diriez... toutes sortes de choses. Pour moi, quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui est comme ça. Et dans le passé, selon moi, de ce que je vois, on a peut-être mis trop d'emphase de dire qu'il est mature parce qu'il connaît la Bible. Vous savez, ce genre de personnes-là qui vont citer tous les versets par cœur, là, tu donnes une référence, ils donnent le verset... on s'en souvient d'un petit bout, puis eux autres, ils vont toujours compléter, que ce soit dans... Ésaïe 53, ou peu importe dans parole, connaissance de la parole. On va dire des fois, des pasteurs, ils sont matures parce qu'ils sont bons pour faire l'exégèse des passages, bien étudier la parole de Dieu, puis bien la communiquer. On dit, waouh, c'est un homme de Dieu, c'est tout un prédicateur. Parfois, on va dire quelqu'un est mature parce que c'est un homme de prière, il est discipliné, une femme de Dieu qui intercède constamment. Et d'autres, on va dire qu'ils sont matures parce qu'ils sont engagés, ils sont à l'œuvre, ils servent avec zèle dans l'œuvre de Dieu. Et toutes ces choses-là, comprenez-moi bien, sont importantes et ils vont toujours être importantes. Mais elles ne peuvent pas, à elles seules, définir la maturité. Parce que ces choses-là que je vous ai mentionnées, ça touche à quoi? Ça touche à à l'extérieur. Hein, si on met nos mains, c'est des choses qu'on fait. Et c'est aussi des capacités. Mais ça touche un peu moins à quoi? Si on dit c'est beaucoup de choses dans le faire, c'est moins dans l'être. Et les deux doivent être présents. Il est dit de Jésus à quelques reprises dans les évangiles que Jésus enseignait comme ayant autorité. Donc, ça faisait crédible aux yeux de la foule qui était là. Puis, dans un des évangiles, il ajoute qu'il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Les scribes, il y avait de la connaissance. Ils connaissaient l'Ancien Testament du bout des doigts. Il était capable de l'enseigner, mais il était dit des scribes qu'ils disent. Puis Jésus disait même, faites tout ce qu'ils vous disent, parce que ce qu'ils vous enseignent, c'est correct. Mais ils disent et ne font pas. Hein? Il y avait cet aspect d'être. Et Jésus, lui, ses paroles, son être, ses actions, ça faisait juste un, ça se tenait tout ensemble. Maturité spirituelle. C'est quoi qui définit que quelqu'un est mature, qu'on veut devenir comme lui? On a besoin de revoir notre définition. Et Peter Scazzaro, dans l'auteur du livre, dit « Emotionally Healthy Church », il explique que la maturité émotionnelle est le lien manquant de ce qu'est un disciple mature. Moi, j'ai accepté le Seigneur en 83, ça fait déjà 32 ans et un peu plus. Et l'aspect émotionnel des leaders que j'avais, c'était pas vraiment là. On pouvait avoir des pasteurs, des fois, qui nous piquaient des crises parce qu'ils n'étaient pas contents, puis dans notre admiration, on disait « Wow, c'est tout un homme de Dieu. Hein, » puis il a fait comme Jésus hein, dans le temple. Jésus, lui, il a tout viré le temple à l'envers. Bien, il a eu une sainte colère. Puis, mais quand ça se répétait, puis ça devenait une caractéristique, on disait « Non, il connaît la parole, il mène bien l'Église. C'était... même pas dans ma pensée, puis dans notre pensée, de dire, écoute, il y a un aspect de maturité dans les relations, dans les émotions que vit la personne. Et Peter Scazzaro continue en disant, « En dépit de toutes nos formations, nos leaders d'Église ne touchent pas les questions de la santé émotionnelle lorsqu'il est question de maturité spirituelle. Il y a un lien manquant. » Nous avons besoin de réexaminer la parole de Dieu et la vie de Jésus pour faire le lien entre ces deux choses. Toute la question est dans la définition de la maturité. Donc, la maturité spirituelle, celle qu'on a vue dans Éphésiens 4, elle inclut la maturité émotionnelle. Ça veut dire que ça touche le cœur. Ça touche nos émotions, ce qu'on ressent. Ça touche la personnalité, le caractère. C'est plus que seulement les actions. C'est plus qu'une sanctification où on dit telle mauvaise action, je ne la fais plus, je la faisais avant. C'est plus que de la connaissance, plus que des capacités à prêcher. C'est une transformation au niveau du cœur. Et ça inclut les émotions. Ça inclut ce qu'on ressent, ce qu'on vit profondément. Quelle est la place des émotions? Et moi, je suis conscient que dans le peuple chrétien, dans la communauté chrétienne au Québec, dans les dernières années, on est dans une transition, on est dans un switch, là. Puis, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Les émotions, quand j'ai accepté le Seigneur, les émotions, c'était presque notre ennemi. Parce que si tu te fies à tes émotions et tu suis tes émotions, qu'est-ce que l'adversaire va faire avec ça? Il va t'amener à pécher. Et on prenait des fois des exemples comme Adam et Ève qui sont dans le jardin et il y a l'arbre de la connaissance du bien puis du mal. Puis Ève, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu le fruit. Puis là, hein? Agréable à la vue, précieux. Elle l'a regardé là, comme une femme qui regarde dans une vitrine un manteau de fourrure ou une bague de grand prix. Puis plus elle le regardait, plus elle était en train de dire Oh, je le veux, j'en ai besoin. Elle l'a pris et on avait tendance à penser de dire, regarde, si elle s'était pas fiée à ses émotions, à ce qu'elle ressentait, mais qu'elle s'était fiée à la parole de Dieu, parce que l'adversaire lui avait dit quoi? Il avait dit, de peur que tu ne meures. Oh, ça a l'air pas sûr. Dieu, il avait dit, tu mourras certainement. Donc, on avait tendance, et on peut en voir encore, à penser que si on met trop de place sur les émotions, si on se permet d'être à l'écoute de ce qu'on ressent, ben, on va faire des choses comme Ève, de dire « j'aurais donc pas dû être à l'écoute de l'intérieur ». Qu'est-ce qu'on mélange dans tout ça? Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas? Sais-tu, si Ève a péché, c'est-tu parce qu'elle a écouté ses émotions? Non, hein, c'est un peu mélanger les choses, faire des spaghettis avec des idées de dire non, on met les émotions de côté. C'est simplement une question d'obéissance et de foi en Dieu, de foi en ce que l'Éternel qui lui était apparu lui avait dit. La place des émotions. Quand on regarde les fruits de l'esprit, il y en a plusieurs qu'on peut dire que c'est pas mal des émotions. Lesquelles qu'on a dans les 9 fruits de l'esprit? La joie. L'amour, c'est toute une émotion? Non, hein, l'amour, c'est une décision. Hein? J'ai dit ça souvent à des jeunes couples qu'on prépare. Tu sais, l'amour, c'est pas juste. L'amour, c'est une décision. Tu t'engages. Puis là, oui, il y a un aspect qui est vrai dans ça. Parce qu'il y a des fois, tu ressens plus grand-chose, puis tu as besoin de prendre une décision. Mais l'amour, c'est toute une émotion. Quelle autre? La paix. Wow! Avoir la paix de Dieu. Même la bienveillance hein, qu'on a comme la bonté, c'est aussi une émotion. Moi, j'aime beaucoup lire dans Proverbes, puis des fois, on trouve des petits bijoux, puis dernièrement, là, voilà un an, un proverbe qui me revient souvent, c'est Proverbe 16-20. « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » J'aime ça parce qu'il y a les deux aspects. Il y a une place pour être à l'écoute de notre cœur, réfléchir, méditer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Puis, une fois qu'on comprend notre réalité, bien, il y a une place de dire, « Seigneur, je t'amène ça, puis je me confie en toi, et je vais trouver cette paix, ce bonheur que tu veux pour tes enfants. » Dans les années 70 et 80, on était une génération de nouveaux croyants exaltés, et hein, on venait au Seigneur par dizaines, hein? Les baptêmes, là, il y en avait presque aux 2 mois, puis on était 15 à se faire baptiser. Toute une époque, on voulait tout donner pour Jésus. Et on pensait dans notre exaltation, et aussi, il n'y avait pas une grande maturité. La plupart des églises là, étaient naissantes de quelques années. On pensait qu'on n'avait plus de problème en venant au Seigneur. Moi, j'étais une nouvelle créature. Les choses anciennes étaient passées. Toutes choses étaient devenues nouvelles. Ça, je l'avais appris, ce verset-là, 2 Corinthiens 5, 17. La joie du Seigneur allait être notre force. J'ai plus peur, je crois seulement. Et on n'avait plus de problème. Nos problèmes nous ont rattrapés. Hein? Les chrétiens, ceux qui étaient alentour de nous, on tombait tous comme des mouches en un an, deux ans, trois ans. Peu importe comment on lit notre Bible, peu importe les bonnes œuvres qu'on fait, peu importe comment on va à l'Église, qu'on sert les autres, comment on connaît des choses pour Dieu, si on n'est pas honnête à propos des vrais sentiments et des vraies émotions qui sont dans notre cœur, toutes les choses que je vous ai mentionnées, c'est des choses de base de la vie chrétienne. Là. Continuez à les faire, moi je les fais. Mais si on fait toutes les bonnes choses, mais qu'on n'est pas à l'écoute de nos émotions, on va bloquer dans notre croissance spirituelle et on va être limité dans nos relations avec les gens. La santé spirituelle et la santé émotionnelle, les deux sont liés, les deux vont de pair. Si on veut avoir cette maturité et cette santé spirituelle, on n'a pas le choix d'aller dans notre cœur. On va le voir tantôt. Jésus, c'est avec quoi qu'on va l'aimer? De tout notre cœur. Puis Jésus, des fois, disait, « Hey, comment avez-vous le cœur dur? Comment vous ne comprenez pas votre cœur que vous êtes sans intelligence? » Ça passe par le cœur. On entre en relation avec notre Dieu par les émotions, par notre volonté, par ce qu'on ressent avec lui. Il y avait, et il y a peut-être encore un peu, une peur dans le monde évangélique de se fier à ses émotions. Notre but, c'est de croire à la vérité, puis de ne pas se fier à nos impressions. Et là, on associe nos émotions. On a parlé d'Ève dans le jardin d'Éden. C'est pas qu'elle a suivi ses émotions, c'est qu'elle a cru au mensonge qui était là. Et bien, des fois, on mélange les choses. On a confondu les choses et on a cru qu'on ne devait pas se fier à ce qu'il y a dans notre cœur, dans nos pensées. T'as peur? Qu'est-ce qu'on dit à un chrétien qui a peur? On dit, pas peur, crains pas. Jésus a dit que tu ne devrais pas craindre. Moi, écoute, je veux retrouver la paix, la confiance, mais je peux-tu être honnête de dire présentement, j'ai peur? Je suis triste. Sois pas triste. Sois toujours joyeux. Je suis anxieux. Je réalise là, que j'ai comme quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je me sens vraiment, là, il y a quelque chose qui me pèse lourd sur le cœur. Aie foi en Dieu. Pourtant, la parole de Dieu nous donne des centaines d'exemples d'hommes, de femmes qui ont ressenti et qui ont vécu pleinement ces émotions-là. Adam et Ève, après avoir péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu peur, ils se sont cachés quand ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont ressenti de la honte, obligés de se cacher. David n'a pas arrêté de ressentir de la peur, de l'angoisse, de la détresse, de l'incompréhension. Il a écrit 50 psaumes dans lesquels il décrit ce que son cœur ressentait et le fait de l'exprimer lui a permis de trouver en Dieu, en l'Éternel, son secours et de retrouver la paix. On doit apprendre à se permettre de ressentir nos émotions. On doit les ressentir, mais on ne doit pas toujours les suivre. Comprenez-vous la différence? Si on utilise la voiture comme illustration, où est-ce qu'on met les émotions? Dans la valise. Non, c'est pas la place à les mettre. Ça dépend si t'as une camionnette, si t'es mis dans la valise, t'es un peu en contact. Mais mettons, là, c'est un sédan là, avec un coffre arrière, un compact. Les émotions, on veut pas les mettre dans la valise arrière. Parce que dans la valise arrière, mettons que quand on conduit, on n'entend rien puis on les voit pas. Donc, on veut pas les mettre là. Parce que là, c'est un peu les nier puis de pas s'en soucier. Hein? Quand j'ai quelque chose de sale, moi, dans mon auto qui traîne, là, tu sais, j'aime ça, la valise, elle l'oublie, je le vois plus. À quelle autre place on veut pas mettre nos émotions? Pardon? Dans le siège du conducteur, on veut pas le mettre dans le siège du conducteur parce que c'est ces émotions-là qui vont diriger notre vie. On veut pas les nier, mais on veut pas leur permettre d'envahir toute notre vie. On a besoin de cet équilibre-là et des fois, il semble que c'est tout un ou tout l'autre. On a besoin d'être à l'écoute de notre cœur, puis de venir à celui qui est rempli d'amour, celui qui va nous donner sa paix, sa joie. Pas prendre conscience de nos émotions destructrices et de leur permettre de faire plus de ravages encore dans nos vies. Ça nous empêche de trouver la réponse en Dieu. On pense comme chrétien qu'on se doit d'être toujours égal, pas de haut, pas de bas. Je pense à Élie, hein, y avait-tu un prophète qui était puissant, toi, quelqu'un qui a été utilisé par Dieu d'une façon incroyable? La parole nous dit qu'il a vécu un profond découragement, toute une dépression. Pourtant, après avoir remporté une grande victoire sur les 400 prophètes de Baal, dans le haut de son émotion, il y a une petite femme qui a dit, « Tu vas mourir, on va te faire la même chose que tu as faite. » Et là, tout s'effondrait, il a dit, « Je veux mourir, je ne suis pas meilleur que les autres. » Puis là, il s'est en allé dans une caverne. Il s'est reposé, il a dormi pendant 40 jours presque. Il a été restauré par celui qui est venu à lui dans un doux murmure, hein, doux et léger. Jésus a ressenti des émotions fortes, qu'il a exprimées puis pleinement vécues. Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. J'imagine l'émotion que lui pouvait avoir de prendre conscience d'une vérité que ses disciples étaient sauvés et qu'il donnait le salut. Hey, vous connaissez tout ça, mais de le dire et d'en prendre conscience, il a tressailli de joie. Il a eu une émotion extrême. Son cœur ressentait pleinement. Il a exprimé son indignation avec force. Jésus a été angoissé, son âme a été triste jusqu'à la mort. Il a été en proie au tourment. Jésus a vécu les émotions. On pense que ne pas ressentir, ne pas vivre les émotions vont nous aider à s'en défaire. C'est exactement le contraire. Comment on se sent comme chrétien si on éprouve la tristesse? Bien des fois, on se sent vaincu, on se sent dans la défaite, puis on se sent honteux. On ne devrait pas. Si on ne veut pas toujours vivre dans la peur, on a besoin de ressentir notre peur. Moi, dans le ministère, pendant 20 ans, sans le réaliser, j'avais toujours peur. Peur que quelqu'un ne soit pas content, peur d'une crise qui allait arriver. Fait que quand il arrivait des situations qui n'étaient même pas dangereuses, en dedans de moi, là, il y avait des muscles qui se contractaient, puis mon cœur, j'avais peur si j'avais réalisé, hey, Hey, c'est pas grave, il est juste arrivé cette petite chose-là, mais je réalise en moi que ça a provoqué de la peur. Hey, c'est là que tu en es délivré. Est-ce qu'un bon chrétien est toujours joyeux? Paul a écrit ça, mais il a été désespéré, abattu, découragé. Mais la grâce de Dieu lui permettait de retrouver la joie. Une mauvaise compréhension de la parole, de la vie chrétienne, un style de vie, de croyance, de personnalité, peut-être lié à l'influence qu'on a en Amérique du Nord, qui nous amène à toujours vouloir bien paraître, toujours être victorieux, jamais dans les combats. Ça nous empêche de grandir, ça nous garde dans une immaturité. Quand quelqu'un dans l'Église arrive, puis s'ouvre, puis partage ce qu'il vit de profond, une dépression, tentative de suicide, comment on réagit quand quelqu'un dit ça? Il partage ça le dimanche matin devant toute l'Assemblée. Comment vous allez réagir? Hey, toi là, tu viens de scraper notre culte. On était là, centré sur la louange, sur la beauté, la grandeur de Jésus, de notre Dieu. Puis toi, tu viens nous dire ça. On peut être mal à l'aise avec ça. De dire, écoute, tu peux le dire à une ou deux personnes dans l'Église, mais dis-le pas à l'Assemblée. Parce qu'on sait pas quoi faire. Mais en même temps, si une personne partage ça à toute l'Assemblée, qu'est-ce qui risque d'arriver quand cette personne-là va sortir? Ils vont être après, puis il y a peut-être des gens qui auront lutté avec ça puis qui n'auront jamais parlé. Des personnes qui luttent présentement avec les mêmes problèmes puis qui n'osent pas en parler parce qu'ils ne se sentiraient pas compris. Puis là, ils vont courir après. Ils vont dire, « Faut que je te parle. Je veux te parler. Ça m'a fait tellement du bien que tu oses me partager à toute l'Église que tu vis. Ça m'enlève de la culpabilité puis ça me donne de l'espoir. Ça me donne des gens à qui je peux parler pour recevoir de l'aide. » On est des chrétiens, un peu comme dans la société, où on aime demeurer au-dessus de la surface. Hein? On veut juste garder une belle image puis rester dans ce qui est visible. Et dans ce temps-là, on est en train d'ignorer les réalités profondes de notre cœur. C'est comme l'iceberg. Il y a 10 %, hein? Un morceau de glace, un iceberg, il y a toujours 10 à cause de la densité de la glace quand elle est dans l'eau. Il y a toujours 10 % qui dépasse. Ça, c'est ce qui est visible. Et il y a toujours 90 % qui est sous la surface. On a besoin d'aller un peu en dessous de l'eau puis de prendre conscience. Qu'est-ce qui est ma réalité? Qu'est-ce que je vis comme émotion? Si on ne le fait pas, ça va avoir un plus grand impact encore dans nos vies. Imaginez que monsieur, vous revenez du travail à 5 heures, là, il mouillait comme tout, puis vous avez eu une... Ouais, je pense que c'est le mien. Je pensais, laisse-le, il va arrêter. J'étais certain que je l'avais fermé. Là, ça nous joue des tours. Une dispute avec votre patron. Vous ne savez même pas si vous allez garder votre emploi. Vous ne savez même pas si vous voulez continuer à travailler pour lui tellement c'était injuste, tellement c'était difficile. Vous arrivez à la maison, vous refoulez ça, vous dites, je suis chrétien, c'est le Seigneur qui me donne un emploi. C'est pas grave, ça ne m'affecte pas. sur qui puis comment ça va sortir, cette affaire-là? Hein, sûr? Sur le conjoint, sur les enfants qui n'auront absolument rien fait. C'est pas de leur faute. Mais imaginez que cet homme-là, peut-être en arrivant à la maison, prend un temps dans la voiture, qui prend le temps de prier puis qui dit, « Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu vois comment je suis en colère, comment je suis furieux. Je trouve tellement c'est injuste qu'il a dit, « Seigneur Jésus, je suis enragé, je suis fâché. J'aurais le goût de donner ma démission. Seigneur, aide-moi à faire face à ces émotions-là. » Puis là, de parler au Seigneur comme un confident, puis d'ouvrir notre cœur, puis de le réaliser. Puis demander au Seigneur qu'il nous donne sa paix, pas en minimisant ce qu'on vit. On peut avoir peur aussi. On peut être en colère, mais en même temps, on peut avoir peur. On peut dire au Seigneur, tu vois comment je me sens coincé. Il me semble que si je parle selon la justice, puis que je dis la vérité à mon patron, il y a plus de chances que je perde mon emploi. Je ne veux pas faire ça Je ne veux pas mettre ma famille dans le trouble. Si on se permet de le vivre, ça va avoir un moins grand impact. Nier la tristesse de notre cœur ne conduit pas à la joie. Nier l'anxiété et l'inquiétude ne procure pas la paix. Au contraire, nier des émotions année après année pendant une longue période, ça va conduire à la dépression directement. Les amener à la lumière puis permettre à Jésus de les prendre puis d'agir, ça va nous donner sa paix et sa joie. La colère, quelle belle émotion! Dans certains livres, ils disent que la colère est une réaction juste et mesurée devant un tort qui nous est fait. Puis la colère permet de garder la dignité de la personne. Si tu es traité injustement, puis que tu ne réagis pas, puis il n'y a rien en dedans de toi qui réagit, tu vas venir, tu vas te faire écraser, tu vas te faire rabaisser, puis tu vas venir à avoir plus d'estime de toi. Puis la colère, bien des fois, c'est une réaction justifiée devant une situation qui mérite que l'on réagisse. La plupart des chrétiens vivent avec une colère enfouie dans leur cœur. Parce que se mettre en colère, c'est mal. Ou réaliser qu'on est en colère, hey, on ne veut pas ça, c'est un péché, donc on veut l'enlever. Bien des épouses vivent avec une colère cachée envers leur mari. Déception, attente non comblée, insensibilité, négligence de notre part, nous les maris. Elles endurent ça secrètement en gardant le silence. Mais la colère grandit. Et c'est ce qui fait que quand j'étais à Shawinigan, j'ai vécu, il y a eu 15 divorces en 14 ans. Et à chaque fois, c'était qui demandait le divorce? C'était la femme. Et l'homme ne comprenait rien. Et la femme, quand elle disait qu'elle divorçait, il était trop tard. Là. Moi, j'arrivais comme un pompier, la maison était déjà brûlée. Le ressort était cassé, il n'y avait plus rien à faire. Parce qu'on leur avait dit qu'une bonne épouse chrétienne, il n'y a pas de place pour manifester leur indignation, de dire, écoute, il faut qu'on se parle, je ne peux plus vivre comme ça, je trouve que c'est totalement injuste, c'est moi qui assume toutes les charges, puis je me sens, il me semble que les deux doivent s'épanouir, puis il me semble qu'il y a juste toi qui t'épanouis, puis moi je suis juste en train de subir. Il y a une place pour le dire avec force. Je J'ai parlé de 2 Corinthiens 5:17 tantôt. Et 2 Corinthiens 5:17 amène, quand on dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, on veut que ça aille bien avant que ça aille vraiment bien. On veut que les choses soient déjà faites avant que Dieu le fasse vraiment dans nos vies. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles à notre conversion. On est passé de la mort à la vie. Notre nom est écrit dans le livre de vie. On est devenu un enfant de Dieu. On est assis dans les lieux célestes en Christ. Le Saint-Esprit vit en moi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout fait. Ça, c'est tout nouveau. On aimerait croire qu'en venant au Seigneur, tous nos problèmes du passé sont réglés. Qu'on est, au moment même de notre conversion, une toute nouvelle personne. Ce n'est pas le cas. Le Richard Talbot qui a accepté le Seigneur à 22 ans, il était le même que celui qui a tout vécu. Ce n'était pas la fin du travail que Jésus voulait faire, c'était le début. Puis la fin, c'est quand qu'elle va arriver, la fin du travail de ce que Dieu veut faire dans ma vie? À ma mort. Ça va être juste là que ça va arrêter. On peut dire rapidement, instinctivement, que notre cœur va bien avec Jésus. Pas nécessairement parce que c'est ça qu'on vit, mais c'est parce que c'est ça qu'on veut. On veut que notre cœur aille bien avec Jésus. On veut avoir sa joie. Donc, on ne l'a pas, puis on dit qu'on l'a, puis à force de dire qu'on l'a, ben, peut-être que ça va devenir notre réalité. C'est pas comme ça que ça marche. La réalité, c'est que pour la grande majorité des gens, presque tout le monde, quand on accepte le Seigneur, notre cœur, il est blessé, il est fermé, il a été meurtri. Et on n'aime pas faire ce diagnostic-là. On veut croire qu'avec Jésus, d'un coup de baguette magique, tout a été réglé. Mais on n'a qu'un seul cœur. Et toutes les années qu'on a vécues avec notre conversion, ça fait partie de nous. Et le Seigneur va venir et va nous restaurer. J'aime tellement 1 Pierre 1:17. Il est dit dans 1 Pierre 1:17 que notre Dieu est venu nous racheter de la vaine manière de vivre qu'on a héritée de nos pères. Richard Talbot, chacun d'entre vous, vous avez eu un héritage, vous avez un bagage, c'est votre arrière-plan. Vous avez été élevé par vos parents dans un contexte familial, vous avez eu l'impact de vos frères et sœurs, il y a la famille, il y a le voisinage, il y a vos professeurs, et on a tous reçu une influence, un impact. Et dans ce verset-là, ça dit que c'est la vaine manière de vivre qu'on a hérité, dans le sens que nos parents, ils n'étaient pas parfaits. La plupart, mes parents, ils ont été dévoués, ils ont fait de leur mieux, je n'ai rien à leur reprocher, sauf que je peux me permettre de voir qu'il y a des choses qu'ils ont faites dans ma vie, que ça a un impact négatif. Des actions pécheresses, des pensées pécheresses. Au total, un héritage qui fait partie de nous. Puis Jésus est venu nous délivrer de la conséquence du péché éternel en nous assoyant dans les lieux célestes. Et pendant qu'on est sur la terre, il veut nous guérir, il veut nous libérer, il veut nous racheter, nous restaurer. Hein? Des fois, on prend un vieux meuble tout magané, puis quand on va le restaurer, on va essayer de ramener le meuble à son plus bel état possible. Bien, Jésus, il veut faire ça aussi. Il veut nous prendre, poquer, puis il veut nous faire grandir à ce qu'on devienne de plus en plus comme lui. on arrive à Jésus avec un arrière-plan unique et différent. Parents, éducation, expérience, des traumatismes, des coups qu'on a eus qui vont nous handicaper et qui vont nous diminuer. Qu'est-ce qui empêche un homme d'être le meilleur mari possible pour son épouse? Ou à des parents d'être une source de bénédiction pour leurs enfants? À un chrétien d'être un témoin efficace? La réponse, c'est un mot, c'est le péché. Le péché dans notre vie, dans leur vie, qui les affecte et qui les empêche de devenir ce que Jésus voudrait qu'ils soient. C'est l'héritage de la mauvaise manière de vivre qu'on a hérité. Ce péché-là peut se traduire en trois catégories. Premièrement, les blessures, des traumatismes, hein? Un coup. Tu reçois un coup où tu n'aurais pas dû recevoir une balle de baseball qui se dirige puis qui frappe un pare-brise. Est-ce que la balle, elle a mal? Non, la balle, elle est pareille, tu peux continuer à jouer avec. Mais le pare-brise, qu'est-ce qui est arrivé? Oh, il y a une poque, il y a quelque chose qui est là qui ne devrait pas être là. Ça peut être des abus, la violence physique, des paroles blessantes, des critiques injustes, des cris. Ça provoque la peur, un sentiment de faiblesse. Et dans le cœur, ça dit, je ne mérite pas d'être traité comme ça. Et on accepte le Seigneur et on entre en relation avec les frères et sœurs. Et quand vont arriver ces situations où on va recevoir des petits coups, qu'est-ce que ça va dire à notre cœur? Je ne mérite pas d'être traité comme ça. Un grand nombre de personnes gentilles le sont pour éviter d'être blessées. Et je me mets dans cette catégorie-là. Pas nécessairement d'être gentil, mais de réaliser que dans mes stratégies, je veux que tout le monde soit toujours content avec moi. Donc, je vais être gentil avec eux et les gens vont être gentils avec moi. J'ai réalisé, il y a seulement un an ou deux, que je faisais tout pour que tout le monde soit toujours content avec moi, à la maison, dans l'église, dans mon voisinage. J'avais eu des traumatismes, des coups dans mon enfance qui fait que j'arrivais puis je voulais que tout le monde soit content avec moi tout le temps. Et tout à coup, t'es gentil, mais les autres ne répondent pas comme ça. La blessure qu'on a, et comment on peut aller à Jésus, réaliser que c'est ça qui est dans notre cœur, puis permettre à Jésus d'être celui qui vient nous guérir, celui qui vient révéler les combats dans notre cœur, puis qui vient nous délivrer, qui nous donne cette force. Tu n'as plus à avoir peur, Richard. Je suis là. Tu n'es plus ce petit garçon-là qui subit les cris d'une mère fâchée puis un peu dépassée par les circonstances. Tu n'as plus à avoir la peur que tu vivais. Je peux te donner la paix, la sécurité. Première blessure, des coups, traumatismes. Deuxième façon que on est affecté de la mauvaise manière de vivre qu'on a hérité, les manquements, les carences. Tantôt, il y avait quelque chose qui ne devait pas être là, puis qui était là, quelque chose qu'on se serait passé, là, c'est quelque chose qui aurait dû être là. Une plante qui a manqué de nutriments, une chose qui devrait être là, puis qui n'y est pas, de l'amour, de l'attention. de la présence, de l'encouragement. Notre cœur d'enfant en avait besoin, mais il ne l'a pas eu. Imaginez une petite fille qui, la mère travaille, puis est un peu abandonnée à elle-même. La mère arrive juste à 6 heures de travailler, puis l'enfant arrive à 3h30, puis il est tout seul en maison, puis il s'ennuie, puis écoute un peu la télé, puis grignote un peu, puis pour se désennuyer. Puis quand la mère arrive, cette petite fille-là, elle aurait besoin de quoi? D'amour. Imaginez si la mère dit, « Écoute, comment ça a été? » Tu sais, c'est juste pour un temps, puis tu sais, je suis mal à l'aise que de te laisser comme ça toute seule, mais viens, on va s'asseoir, on va prendre un temps ensemble. Je suis tellement contente d'être là, puis qu'on soit ensemble. Viens, on va s'asseoir, on va jaser. Qu'est-ce que ça ferait au cœur de cette petite fille-là? Ça empêcherait une blessure d'abandon, d'être seule. Mais dans la réalité, cette petite fille-là avait une petite bicelle, une petite balayeuse à la main qu'on n'a pas de fil. Et elle devait passer la balayeuse pour que sa mère, en rentrant, voie que c'était propre. Quelle était la première chose que la petite fille se faisait dire en rentrant? « T'as pas passé la balayeuse! » C'est pas grand-chose, c'est pas méchant. Mais imaginez après ça comment cette petite fille-là qui grandit, qui devient une dame, quelle importance le ménage prend. C'est débalancé. Puis ça a des répercussions. Quand on réalise les blessures qu'on a, ça nous permet de nous en libérer. Quand il y a des carences comme ça, des blessures d'abandon, des personnes qui s'isolent, des personnes qui deviennent des victimes, pauvre moi. Et ça, c'est nous, hein? Que ce soit un ou l'autre, on est là dans l'Église, puis on essaie d'entrer en relation, puis de s'aimer, puis d'avoir un impact dans la vie des autres, mais on a nos protections à cause de nos blessures. Troisième type de péché, la distorsion. Tout ce qu'on a reçu et appris de la vie qui n'était pas vrai. Un peu comme si tu mets deux boulots, hein, puis quand ils sont petits, ils sont souples, puis tu fais croiser ces boulots-là. Puis au lieu de grandir droit, ils grandissent enroulés un après l'autre. Une distorsion des choses que vos parents, votre père, votre mère, votre entourage a toujours dit. Dans un livre chrétien, il y avait une jeune fille que quand elle se regardait dans le miroir, sa mère lui disait, « Tu sais, même si je pourrais faire appel à la reine d'Angleterre, elle ne pourrait jamais te rendre belle. » Et la petite fille a grandi en entendant ça. Qu'est-ce qu'on a entendu? On ne peut pas être heureux en couple. Les hommes sont tous des incompétents. Hein? Il y a plusieurs femmes qui ont subi l'alcoolisme d'un homme qui ont vécu l'absence d'un père, la mère qui devait tout prendre en charge. Et cette petite fille-là grandit en se disant, les hommes, c'est tous des incompétents. Il faut tout faire. Et quand il y a quelque chose qui s'organise au Québec, une fête à Noël, jour de l'an ou une épluchette de blé d'Inde, c'est qui organise tout ça? Hein? Les femmes, hein, puis les hommes, ils entendent ça, puis ils disent, écoute, plutôt que de m'impliquer, puis d'être là pour aider, puis pour pas que ce soit lourd, si j'y vais, il y a des bonnes chances que je vais me faire dire quoi? Que je suis un incompétent. Donc, je vais laisser ça aux femmes. Et là, la femme souffre d'insécurité, puis l'homme se sent un peu de dire, écoute, j'aimerais aider, mais j'aime mieux pas m'impliquer. Le but de la vie, oui. Oui, OK. 2 minutes? 1 minute? OK. La douleur. 2 choses en 1 minute. 2 choses qui peuvent attirer notre attention. Premièrement, les péchés récurrents. Pourquoi je visiterais mon cœur? Parce qu'il y a des choses dans ta vie que tu as beau essayer de lire la Bible tout le temps, ça revient toujours. Premier indice. Deuxième, la douleur. Il y en a qui ne vont pas souvent chez le dentiste parce que ça va bien. Mais quand ils ont un mal de dents, ils vont y aller en courant. Dieu peut, par le Saint-Esprit, mettre un peu de douleur dans ton cœur qui va dire, écoute, c'est le temps, il faut que j'y aille. Merci.
Cette portion de la parole de Dieu vous a fait du bien? Partagez-la en la distribuant gratuitement sur les médias sociaux et en y laissant votre appréciation. Vous en voulez plus? Pas de problème. L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web avec des centaines de messages et de ressources en audio MP3 et vidéo. Vous trouverez tout cela à l'adresse graceetverite.org. Merci de nous honorer en visitant notre Église ou en laissant un commentaire sur notre site internet graceetverite.org.